Juste rapidement, 30 secondes.
Alors, for those who don't speak English,
c'est comme une espèce de soupe inexplicable.
You are in their heart.
The ralliement can exprime their point of view.
It's facile.
On est vide.
C'est aussi important que le cul qu'à voile. Parfait. Merci beaucoup
de ces précisions. Hey, Abraham! Suzanne, tu me lèves bien. Elle me l'a dit l'autre jour.
Mais je suis tanné de me faire chier sur un bord.
Tu sais pas à qui avec Flash, que vous en pensez?
Puis de me faire écœurer sur l'autre.
Du soleil, quelques passages nuageux, okay. Puis un petit peu cocktail.
Ils s'entendent pas, là, le chicane est poigné.
Ma part me faire cracher dessus, oui.
Ça, c'est...
Hey John, tu fais un montage avec Pauline Marois?
Oh oui!
J'ai montré ce que c'est le Québec en anglais.
Oh oui, oui!
Oui, il dit non, elle avait raison, la mairesse, c'est bien pour ceux qui parlent pas anglais. Écoute, on...
Je vais faire un job à ma tête, mais je vais m'écrire en bas du pont de Québec.
Rockkick.com. Wake up, you're listening to Rockkick.com. Pierre Ismaël Trépanier.
Laisse-moi te dire un truc, gros là. Ta mère est passée me voir tout à l'heure et ben je l'ai culbuté comme une vraie salope.
What?
Devil, yeah.
Il est présentement 11h44. Vous êtes sur le www.rockkick.com, votre station numéro 1. Avec peut-être... Je sais pas si je devrais prendre comme... En tout cas, prendre le qualificatif l'animateur le plus célèbre canadien.
Voilà.
Au bout du fil, on a Mme Balois qui est avec nous. Bonjour Mme Balois.
Bonjour Monsieur Trépanier.
Comment allez-vous?
Ça va, bon. Ça va.
Vous savez, on a un beau gros 45 minutes juteux ensemble.
Oui.
Alors, on va en profiter. On va en prendre
D'accord.
plein les oreilles avec vous à l'instant. On commence par quoi? Première étape.
On commence par une partie de la vie du prophète et je m'arrête juste, disons, au bout de 20 minutes.
OK.
Et je fais 20 minutes de langue avec vous.
D'accord.
Et je peux y aller?
Oui, allez-y.
Oh, j'y vais. Donc, c'est toujours un prophète, une révélation, une langue. Donc, Abou Lahab, le fameux oncle à qui la révélation a annoncé un destin tragique pour lui et sa femme, surtout pour lui, puisqu'il grillera dans un feu plein de flammes, on a vu ça dans la sourate 111, est absolument fou de rage contre Mahomet. À cause de ce neveu stupide, toute la ville de la Mecque est pliée en deux de rire. Car bien sûr, les notables ne croient pas un seul instant qu'il y ait une vie après la mort. Mahomet déraille. Il déraille peut-être parce qu'il n'a pas de fils pour perpétuer la lignée. De toute façon, on le traite d'impuissant. Aptar, avec la Hamza du début, Aptar, A-B-T-A-R. Et surtout, ce neveu fait honte au clan de Hashim. Et dans ce clan de Hashim, ben évidemment, il y a des notables comme lui, Abou Lahab et sa femme. Une créature céleste informerait Mahomet, mais on le connaît, Mahomet, c'est le neveu et le protégé d'Abou Talib. C'est un orphelin, le fils d'Abdallah, qu'Abou Talib, son oncle, a recueilli après la mort de son grand-père. Il raconte des choses énormes. D'un grand poids, dit-il, bien sûr, un grand poids de folie, oui. Surtout dans la septième sourate révélée. C'est une véritable fin du monde qui est prédite. Alors la septième sourate, ce n'est pas la sourate 7, pas du tout, c'est la sourate 81. Mais c'est la sourate révélée en septième position. Ça s'intitule « L'obscurcissement à Takwir ». Alors là, on est en plein délire. Le soleil ne brillera plus, les étoiles ne scintilleront plus, les montagnes seront mises en marche, les chamelles pleines, celles qui sont prêtes à mettre bas à accoucher au bout de 10 mois, on les négligera. A-t-on jamais vu cela à la Mecque, quand il y a des femelles, des chamelles,
oui,
qui attendent des petits? Jamais on ne les laisse tranquilles, on ne les néglige pas. Les bêtes féroces se rassembleront, les âmes sœurs se regrouperont, les mères se mettront à bouillonner, les mères, l'eau. Et aux fillettes tuées, on demandera pour quel péché elles furent enterrées vivantes, car on avait l'habitude d'enterrer vivantes les petites filles, ça faisait des bouches de moins à nourrir. Le ciel sera écarté, le okay. feu sera attisé, le paradis sera avancé. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Ce sont des paroles de possédés, de majnoun, de fous. Et puis alors le ton avec lequel Mahomet récite cela, lui et ses pauvres crétins qui le suivent, il y a de quoi glacer le sang. C'est vrai, c'est assez beau, c'est de la poésie, de la magie peut-être. Mais Mahomet débite cela d'une voix tragique comme s'il souffrait. Et ceux qui sont les témoins de la récitation, ils l'ont vu remuer les lèvres et agiter la langue comme s'il voulait se débarrasser comme ça au plus vite de ce qu'il devait dire. C'est certain. Quelqu'un l'informe.
Madame Balois, on a une petite question. Vous me permettez de vous la transmettre, bien sûr, d'un auditeur ici. C'est, on nous dit que l'islam est une religion d'amour et de paix. Y a-t-il une sourate qui parle d'amour? C'est vrai, je pense qu'en un an, on vous a jamais posé la question.
Ben, c'est-à-dire que, voilà pourquoi j'ai commencé depuis la première révélée, j'irai jusqu'à la 114, et je veux survoler à peu près 6 sourates par séance.
D'accord.
Comme ça, au mois de juin, on aura fait tout le Coran.
Oh!
C'est-à-dire que moi, je laisse... Vous voyez, là, je suis en train de prendre exactement le contenu des sourates tels que la tradition les expose. Et c'est vrai qu'on y voit, vous allez voir, là même dans celle que je vais exposer, beaucoup plus la notion de châtiment que la notion d'amour. Chaque fois, c'est comme si il y avait Dieu qui prend le parti pour le prophète, qui prend parti, pardon, pour le prophète, et qui menace ceux qui l'attaquent. Vous voyez, c'est vraiment la riposte, l'invective, beaucoup plus que l'amour. Alors, vous verrez, c'est à vous de juger. Là, je prends Ibn Hisham, je prends même également le livre que Ramadan a écrit, Tariq Ramadan, et là, même pour ceux qui sont, si je puis dire, les plus désireux que ce soit une religion d'amour et de paix, vous verrez, toute la période de la Mecque, les premières sourates révélées, là, celle dont je suis en train de parler, c'est vrai que c'est quand on va arriver à Médine que là, ça va canarder. Mais on ne peut pas dire que ce soit vraiment une religion ni d'amour ni de paix. C'est une, c'est une religion, on se défend dans le désert, mais vous verrez vous-même.
D'accord.
Donc c'est vrai que... Ça va ?
Oui, ça va.
On reviendra là-dessus. Donc, il dit qu'il a vu la créature céleste bouchant l'horizon. Tu parles, tout ça, c'est dans sa tête. Il est complètement malade. En tout cas, on les entend la nuit, presque toute la nuit. Ça, c'est d'après Ibn Hisham, a répété, par exemple, ce qu'on vient de dire là. Lorsque le soleil s'obscurcira, et ça fait en arabe Ida shamsu kuwirat wa ida nujumu kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida al-aisharu utilat. On voit que ça rime, vous voyez, kuwirat, inkadarat, suyirat, utilat. Et alors c'est curieux parce que c'est un arabe un peu comme utilisaient les poètes quand on dit, vous voyez, d'abord kawara, c'est vrai. C'est le fait d'obscurcir, on trouve pas ça dans tous les dictionnaires. Kadara, être trouble, si, être trouble pour un liquide, être terne pour une couleur. Mais Mahomet parle un peu comme, je l'ai dit, un poète, comme un devin, quand il dit « Non, j'en jure, par les astres gravitants, par la nuit quand elle s'étend, par l'aube quand elle exhale son souffle. » Et là, il emploie, par exemple, un verbe « asa, asa ». Alors, il emploie un verbe « asa, asa »,« ain, sin, ain, sin ». Alors là, ça, déjà, un verbe en quatre lettres, c'est pas si courant.
« Asa,
asa », c'est-à-dire « subvenir pour une nuit » ou « s'en aller pour la nuit »,« s'approcher de la terre pour un nuage » ou « rôder la nuit pour un loup ». Donc c'est un vocabulaire un peu ancien, sauf le vocabulaire que nous retenons et qui existe toujours. Par exemple, le soleil, les étoiles, vous voyez, des choses actuelles. Mais il y a un vocabulaire aussi qui est très poétique. Et c'est la parole, dit toujours la sourate, d'un noble messager haut placé auprès de Dieu. Après, la tradition dira que c'est un ange, l'ange Gabriel. Mais ce n'est pas marqué le mot Jibril dans le Coran. Alors, la sourate dit « Non, votre compagnon n'est pas fou ». Il parle de Mohammed, de Mahomet. Il a vu la créature à l'horizon. Ce n'est pas la parole d'un diable. Mais où allez-vous? Et là, dans où allez-vous, c'est presque, on pourrait le faire en cours d'arabe. Enfin, Aïna Tazhaboun. Où est-ce que vous allez? Vous ne pouvez vouloir que ce que Dieu veut. Fama Tashauna illa Aniyasha Allah. Rabbul Alamin. Donc Dieu, le Seigneur des mondes. Les paroles que prononce Mahomet, je l'ai dit, sont cadencées comme le pas des chameaux dans le désert. Et le style ressemble à celui des poètes et des devins. Un devin, on dit Kahen. D'ailleurs, le mot hébreu, Kohen, c'est un peu les prêtres. Non, je jure, par ce qui est dit d'ailleurs sur ce seigneur de Mahomet, on va l'avoir dans la sourate 87, pardon. Dieu est qualifié de très haut, Al-A'la. C'est la 8e sourate révélée. Et là, il est demandé à Mahomet et à ses disciples de glorifier le nom du Seigneur le Très-Haut qui a créé, agencé, décrété, guidé, qui fait pousser l'herbe et ensuite transforme tout ça en foin tout grillé. Un Dieu qui connaît tout, qui est apparent. Et celui qui ne craindra pas Allah brûlera dans un grand feu. C'est très calme, poétique.
Oui.
Zayasla Annar al-Kubra. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette notion de châtiment. Tu vas griller mon ami dans un feu où il ne mourra ni ne vivra. C'est-à-dire qu'il sera perpétuellement dans le feu.
Je vous enverrai, madame, je vous enverrai, madame Ballois, des cotes qui ont passé. C'est un reportage qui a été fait par deux Français au niveau de ce qui se passe en Somalie et les fameux tribunaux islamiques. Et vous allez voir les commentaires assez éloquents de je vais dire monsieur, madame, tout le monde, là, qui sont devenus... Ben oui. C'est complètement aberrant, là. Et ce que vous nous dites là, ben, c'est drôle.
Et pourtant, ce sont les sourates considérées comme les plus douces, puisque son sel, il n'est pas encore arrivé à Médine.
En plus.
Il accepte d'être insulté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est les sourates les plus considérées comme la partie calme du Coran. C'est le prophète à la Mecque.
Ouch.
Ouais, oui. Et alors, dans cette sourate, il est dit, seul celui qui fait la prière réussira. Mais, alors là, on attaque encore, vous préférez plutôt la vie présente alors que l'au-delà est bien meilleur. C'est d'ailleurs ce qui est écrit, dit le Coran, sur les rouleaux d'Abraham et de Moïse. C'est la sourate 87, versets 18 et 19. Et je le note parce que c'est la première fois, dans toutes les sourates qu'on a vues, les six premières, on n'a rien vu de tout ça. Aujourd'hui, il est dit, « Inna haza la fi suhuf al-oula suhuf Ibrahima wa Moussa ». Tiens, tiens, il dit, c'est écrit sur les rouleaux, les feuillets, les sortes de manuscrits d'Abraham et de Moïse. Tiens, Mahomet parle, ou on lui a parlé, des écrits, des manuscrits des Juifs. C'est bizarre cette mention des prophètes juifs au début de la révélation de la Mecque, car on en est à la huitième révélation. La neuvième révélation, qui correspond à la neuvième sourate 92, à Leïl, la nuit. Alors là encore, c'est toujours poétique. Par la nuit, quand elle enveloppe, par le jour, quand il éclaire, par ce qu'il a créé, mâle et femelle, celui qui craint Allah et croit à la plus belle récompense, nous lui faciliterons la voie au plus grand bonheur. Mais celui qui est avare, qui n'adore pas Dieu, et qui traite de mensonge la plus belle des récompenses, eh bien là, lui, il va souffrir. Sa richesse ne lui servira à rien, car il sera jeté au feu encore. Oui, Mahomet est chargé d'avertir d'un feu qui flambe et qui brûlera uniquement le damné et celui qui tourne dos. Mais ça ne brûlera pas le pieux qui donne tous ses biens pour se purifier. Ce dernier sera satisfait. Et la dixième révélation est intitulée l'aube, al-fajr, c'est-à-dire l'aurore, d'Exa. C'est la sourate 89. Et toujours il est parlé de châtiment. Par l'aube, par les 10 nuits. Les 10 nuits, c'est les 10 premiers jours du mois de pèlerinage. Par le père et l'impère, par la nuit quand elle s'écoule. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi avec les Had et les Samoud? Had, Aïn, Alif Del et Samoud, ce sont des gens qui étaient des prophètes qui étaient venus pour avertir, paraît-il, les Arabes, ainsi que Pharaon, Firaoun. Tout se mêle à corruption, ils ont subi le fouet du châtiment. Et fouet, ça se dit Saout, Sin, Waouta. Et le châtiment, Azab. Vous voyez, il est parlé de fouet, de châtiment, de feu. Ah, on dit que les gens de la Mecque, ils en prennent plein la figure dans cette sourate. Vous n'êtes pas généreux avec l'orphelin. L'orphelin, ça se dit yatim. Vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. Le pauvre, ça se dit miskin, qui a donné notre mot mesquin d'ailleurs, miskin. Vous dévorez l'héritage avec une avidité vorace. Vous aimez les richesses d'un amour sans limite. Prenez garde. Quand la terre sera pulvérisée, que ton Seigneur viendra accompagné de rangées d'anges, oui, devant l'enfer, l'homme se rappellera, mais il sera trop tard. Il regrettera de n'avoir pas fait du bien pour sa vie future. Alors là, ça semble s'adresser au prophète. Ô toi, âme apaisée, entre parmi mes serviteurs et entre dans mon paradis. Et cela, ça rassurait un peu le prophète, parce qu'il entendait toutes les critiques qu'on lui faisait à la Mecque, ça lui faisait beaucoup de peine. Alors chaque fois, il revenait chez Khadija qui l'aidait à supporter la méchanceté des gens. Et Ibn Hisham raconte, Gabriel demanda un jour à l'envoyé de Dieu, « Fais parvenir à Khadija le salut de Dieu. » Et le prophète le dit à Khadija. Et elle répondit, alors il lui dit, « Voici Gabriel qui te transmet un salut de la part de Dieu. » Et Khadija répondit, « Dieu est le salut. » De lui vient le salut, et que son salut soit sur Gabriel lui-même. Puis la révélation de Dieu à son envoyé se fait beaucoup plus rare pendant un certain temps. Le prophète, il se dit, mais encore, ça s'arrête. Et c'est alors que Gabriel lui apporte, enfin Gabriel, on dit la créature, hein, non, c'est pas très clair, lui apporte la révélation de la sourate 93, la clarté du jour, dans laquelle Dieu lui jure qu'il ne l'a ni abandonné ni détesté. la sourate 93, la 11e sourate révélée, elle est intitulée Ad-Duha, le jour montant. C'est la clarté du jour. Par la nuit, quand elle couvre, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. La vie dernière est certes meilleure que la vie présente. Ton Seigneur t'accordera et tu seras satisfait. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a accueilli? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré, alors il t'a guidé? Ne t'a-t-il pas trouvé pauvre, alors il t'a enrichi?
Sourate 93.
Ne maltraite pas l'orphelin. Quant okay. au demandeur, ne le repousse pas. Et quant aux bienfaits de ton Seigneur, proclame-les. Et l'envoyé de Dieu se met donc à raconter les bienfaits que Dieu lui a accordés. Il en parle partout. Il sait même, il raconte même que la prière lui a été enseignée par Gabriel. D'un coup de talon dans le flanc de la... Oui, Gabriel qui d'un coup de talon dans le flanc de la colline l'avait fait jaillir une source d'eau. Et puis Gabriel devant lui, mais ça c'est pas dans le Coran ça, ça c'est uniquement dans Ibn Hisham.
Okay.
Gabriel aurait fait ses ablutions
Pourquoi?
Au regard de Mahomet pour lui montrer comment faire. Et l'envoyé de Dieu a fait comme l'ange, et l'ange l'a pris par le bras et lui a montré comment faire la prière.
Mais madame, pourquoi justement que ça se retrouve juste dans ce livre-là?
Eh bien justement, le problème c'est que dans le Coran, vous ne trouvez pas ça, mais chez Ibn Hisham.
Et
alors, c'est, paraît-il, d'après les traditions, ce qu'il a entendu, de, vous voyez, les récits de ses compagnons. Okay. Et lorsque les compagnons du prophète voulaient faire leur prière, voilà, et donc Mahomet est allé leur raconter comment on faisait la prière, et quand ils allaient faire la prière, ils sortaient de la ville, parce qu'ils avaient un peu honte par rapport aux gens de la Mecque. Et un jour qu'ils étaient en train de prier dans un sentier des environs de la Mecque, il y a des païens qui sont venus, des gens de la Mecque, en disant « Non, mais vous êtes ridicule, mais arrêtez, là. Vous êtes là en train de vous baisser et de vous... Arrêtez, c'est complètement stupide. » Alors, il y en a un qui avait un petit peu, qui est un peu nerveux, il s'appelle Sard, il ramasse la mâchoire d'un chameau et il frappe le païen à la tête à tel point que, ben, l'autre, il a la tête pleine de sang. Ce fut le premier sang versé dans l'islam, dit Ibn Hisham. La fois sur le Coran, qui est considéré comme la parole de Dieu, uniquement de Dieu. Et puis, le récit de ses compagnons et de ce qu'a dit le prophète qui forme la sunna. D'accord?
D'accord.
Donc, au début, les gens de la Mecque, donc ça, ça a été le premier qui a été blessé parce que là, ils en pouvaient plus, ils ont répondu. Au début, les gens de la Mecque avaient laissé Mahomet réciter ses révélations, mais quand il a commencé à parler contre leur divinité, à leur promettre à tout le monde de griller dans un feu plein de flammes, de leur annoncer une vie après la mort, ça, ça commençait à faire beaucoup. Là, Mahomet allait trop loin. Il fallait arrêter cela. En plus, l'oncle Abou Talib, il n'était pas très chaud. Hein. Il trouvait que son neveu, oh là là, mais par solidarité familiale, il soutenait son neveu en public. Alors, il y a une délégation de gens qui est venue le trouver. Écoute, Abou Talib, ton neveu commence à nous... Il insulte nos divinités, il condamne notre religion, il accuse d'erreur nos ancêtres. Enfin, qui sait cette provocation? Ou bien alors, tu nous laisses régler nos comptes avec lui, car comme nous, tu ne crois pas à sa mission, mais laisse-nous faire, nous, on va t'en débarrasser. « Oh, écoutez, je vais lui parler, ne vous inquiétez pas. » Mais Mahomet continuait de plus belle à prêcher l'islam. Alors, ils sont revenus voir Abou Talib, l'oncle, et dit « Franchement, Abou Talib, nous t'estimons, t'as un grand âge, c'est ton neveu, mais écoute, retiens-le, sinon, nous, tu nous trouveras contre vous deux, là, ce sera une guerre sans merci. » Alors, Abou Talib est terriblement embarrassé. Il fait appeler Mahomet, « Écoute, neveu, les gens sont venus me menacer, je t'en prie, j'en peux plus, arrête !» Mon oncle, je te jure, s'il me mettait le soleil dans la main droite et la lune dans la main gauche afin que j'abandonne cette mission, je ne le ferai point. Jusqu'à ce que Dieu fasse éclater la vérité ou que je meure, je ne me tairai pas. Et Mahomet, en disant ça, était au bord des larmes. Alors l'oncle, c'est un brave homme, Abou Talib, il lui dit, bon d'accord, tu peux continuer, mais franchement, je vais avoir des problèmes, moi. Et les gens de la Mecque n'étaient pas contents. Alors, qu'allait-il arriver au prophète? C'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Alors, voyez, mais ce n'est pas dans une sourate, c'est dans le récit par les compagnons. Et c'est ce sur quoi s'appuient les musulmans aujourd'hui encore. Voilà.
OK.
Donc, on va pouvoir commencer la leçon d'arabe.
Juste avant de poursuivre, je tiens à vous dire que il y a eu un sondage par rapport aux Québécois. À savoir, Madame Ballois, est-ce que les Québécois sont racistes? Eh bien, je peux vous donner quand même quelques résultats très, très rapides. Mm-hmm. Je vous dirais que ils ont vraiment découpé communauté noire, communauté arabe, juive, etc., latino-canadienne, et ainsi de suite. Et la communauté qui a le plus de racisme, qui voit le plus de racisme à son endroit, eh bien, Je suis sûr que vous auriez une facilité à tomber, à mettre le doigt dessus. C'est la communauté arabe.
C'est dommage parce que c'est ça provient de quoi ils disent les raisons?
Ben, dans le fond, si je peux vous donner quelques exemples, si vous avez encore un petit peu de temps. Ça ressemble à ceci, les questions qui étaient posées le samedi dans un des journaux les plus lus, qui est le Journal de Québec. Par exemple, est-ce que... attendez un instant que je vous trouve une question qui a vraiment un lien direct avec les Arabes, par exemple. Avez-vous des problèmes avec les communautés suivantes? Et là, bon, à 50%, les gens répondaient que c'était avec les Arabes, les Juifs. C'était vraiment en dernier... c'est vraiment en dernier de ligne qu'on retrouvait tout ça. Regardez là ici, la communauté italienne, bonne opinion à 90%, la communauté asiatique, 85% de bonne opinion, 77% pour ce qui est des latino-américains, bonne opinion, la communauté noire, 68%, la communauté juive, 58%, et on tombe à 43% pour ce qui est de la communauté arabe. C'est par rapport à leur religion, c'est par rapport à leurs vêtements. C'est par rapport à ce qu'ils dégagent depuis les attentats du 11 septembre, par exemple, 2001. Vous avez ici l'imam, Madame Balouet, qui nous dit que je vais vous citer ceci, Saïd Jaziri, qui dit que il pense que l'on associe trop facilement la communauté arabe aux terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ben oui, c'est sûr. C'est qui est d'ailleurs totalement faux. Parce que parmi les terroristes, il peut y avoir effectivement des Arabes, mais il peut y avoir des gens aussi pakistanais. Il y a beaucoup de Pakistanais qui sont extrêmement fanatiques du côté de l'Indonésie aussi. C'est-à-dire que c'est surtout une question de fanatisme religieux.
Oui, mais c'est beaucoup.
Voilà. Donc
c'est...
nous, moi, je pense que la meilleure façon de contrer ça, c'est de connaître exactement... ce sur quoi il s'appuie, et de façon à ne pas être ignorant.
Ben, c'est dans le fond sur ce qui... Ben, il s'appuie par rapport aux attentats du 11 septembre, vu que c'était des Arabes.
Vous parlez de l'enquête, mais moi je parle que ceux qui parfois agissent au nom d'Allah et du prophète, car c'est sûr qu'elle s'appuie sur des textes, et là, dans les sourates, vous voyez que même les premières sourates, et là on en a survolé à peu près, disons, une douzaine, eh bien, vous voyez quand même qu'on parle de châtiment, de feu, et c'est comme si considéré comme la parole de Dieu éternelle. Pour certains, celui qui ne croit pas, qui ne pratique pas, eh bien, il est moins que rien.
Même de votre côté, il y a le www.expression-public.com ils ont fait à peu près le même sondage, d'accord? Mm-hmm, à peu près similaire au nôtre ici. Et vous voyez, la religion musulmane est perçue de façon très, très négative à 48% comparativement aux autres religions. En tout cas, c'est assez frappant que ce soit encore eux qui reviennent haut la main sur le côté raciste que les gens peuvent avoir à leur endroit.
Alors c'est pour ça, moi je pense qu'étant donné que il y a des Arabes qui ne sont pas musulmans.
Tout à fait.
Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut faire attention de ne pas faire d'amalgame. Mais donc nous, on va commencer, si vous voulez. Est-ce que vous avez regardé comment écrire?
Ben, c'est ça, je suis devant le site du Liberty Vox.
Très bien.
Je peux vous dire que, je vous cache pas que, on vous l'avait bien dit, je suis débutant. Mais je suis là pour apprendre, puis je pense que je suis
en mesure... Et en même temps, je pense que c'est étonnant que je n'ai eu que des réactions de gens qui se sont carrément plongés dans l'écriture, l'analyse de l'écriture,
oui.
Comme Maximus, mais que les gens n'osent pas poser des questions, et que vous jouez le rôle de quelqu'un qui ose poser des questions. Je prends, par exemple, quand je veux écrire un mot,
oui.
Qui s'appelle, enfin un mot en arabe, « Shems ». Quand vous entendez « Shems », vous entendez... d'abord, vous devez éliminer
les voyelles. Alors,
qu'est-ce que vous avez comme lettre dans « Shems » ?
Là, j'ai « CH » en partant.
Excellent.
Okay.
« CH ».
Et le « M », bien sûr.
Bien sûr.
Est-ce que c'est bien ça ? Bon, Shems. Alors « Shems ». « Shems » avec un « S », oui.
Très, très bien. Alors, justement, pour pouvoir écrire, il faut... Si vous avez une feuille...
Oui, j'ai une feuille.
Il faut aller à droite et pas du tout à gauche.
Ok, oui.
Et il faut commencer, comment allez-vous faire le CH? Ça ressemble à quoi le CH?
Oh my god.
Ouais, que parfois qu'on transcrit avec un S, avec une petite virgule, parce que CH, parfois. Alors, ça ressemble à un U que vous feriez, vous voyez, le U. Vous voyez comment vous faites le U?
Oui.
Vous savez faire un U?
Oui.
Eh bien, justement...
Non, je ne sais pas. Oui, allez-y.
Donc, le U, vous allez le faire comme si vous étiez en partant de la gauche.
Oui. Mais là, je le fais de la droite.
Au-dessus, vous allez faire trois petits points comme si c'était un accent circonflexe, mais c'est trois points. D'ailleurs, en Orient, ils font carrément l'accent circonflexe. Vous voyez, par-dessus.
Ok, c'est fait. Alors, dans le fond, est-ce que mon U, je fais un U complet, là, c'est pas...
Non, vous faites un U, alors vous faites un U, une petite queue au bout, toute petite qui relève un peu le U, et un petit trait, pour pouvoir accrocher l'autre lettre, parce que le CH s'accroche à la lettre qui suit.
Ok.
Qu'est-ce que vous allez mettre comme lettre? Ça, c'est un CH du début, ok?
Et attention, Madame Ballois, les fameux petits points, les trois petits points que vous me parlez, ce n'est pas des trémas, là, ce n'est pas ça du tout, là. C'est vraiment un accent circonflexe.
Non, ça serait presque un tréma avec un autre point, un 3. C'est okay. Comme un accent circonflexe, ça peut être un accent circonflexe.
Oui.
On fait ça en Syrie et en Orient. Mais ça peut être aussi, si vous voulez, les trois petits points séparés. Trois petits points, trois petites pommes.
Ah, ok, d'accord. Bon, c'est parfait, j'ai réussi à faire mon U du mieux que je le pouvais.
D'accord. Et okay. Alors, vous avez un tiret, vous ne lâchez pas votre ligne.
Non.
Et qu'est-ce que vous allez faire comme lettre du milieu, là, puisqu'il y a trois lettres seulement?
Oui. Alors, dans le fond, le U représente quoi, en quelque sorte? C'est pas le CH,
la lettre
là.
Du début.
Alors, c'est la lettre...
C'est-à-dire, c'est le CH du début.
OK, ça,
le
c'est
Chine
le CH.
Du début. CH. Okay.
CH.
Elle a comme nom Chine.
Alors, je tombe au M.
Alors, le M se fait comment?
Oh, merde. Attendez un instant, je vérifie comme il faut.
Non, c'est juste... Mais le M est minuscule. C'est comme un tout petit rond. Un tout petit rond minuscule. Le M du milieu.
Ok, je le vois. Ok.
Voilà.
Je vois.
Alors, un petit trait, et ensuite, vous allez avoir un S de la fin. C'est exactement comme le U qu'on avait fait, mais il a une boucle à la fin.
Ok.
Sans les points, bien sûr.
Sans les points, ok, parfait.
Alors, c'est comme un U, mais alors, à la fin, il a une petite boucle qui fait qu'il dépasse la ligne.
Ok.
Ce qui fait que vous avez un U... fait de droite à gauche, donc un peu comme si vous le faisiez à l'envers, avec trois petites pommes, trois petits points, un trait, ensuite un tout petit rond du milieu, et un S. Et vous verrez sur Liberty Vox, sur le fil langue arabe,
oui.
J'ai écrit, et ça fait Shems.
Par exemple, ok, ah, vous avez écrit? Bon, c'est bon.
Je l'ai écrit.
Je vais descendre un petit peu plus bas, là-bas. Ok, alors, ah, ok, d'accord.
Le voyez-vous?
Je le vois, oui, c'est bon.
Okay. Il y a même un soleil à côté.
Oui, tout à fait.
Okay, voilà.
Parfait, joli.
Est-ce que vous avez compris le système de l'écriture?
Oui.
Shems. D'ailleurs, c'est tellement compliqué d'avoir un CH et un S que certaines régions d'Algérie, on dit pas Shems, on dit Semch. On fait, vous voyez, dans les dialectes, au lieu de dire Shems, ils disent Semch. J'ai eu une fois avec un élève un truc trop drôle. Il disait Semch, je lui disais Shems. C'est que dans certaines régions... Vous voyez, dans le parler comme ça, bah, eh bien, on inverse. Mais le mot exact, c'est Shems, d'accord?
Ok.
Ça va jusque-là?
Oui, ça va.
Maintenant, si je prends comme mot un man, qui veut dire qui, interrogatif, man.
Man.
Qu'est-ce que je vais avoir comme lettre dans man?
Alors, est-ce que je vais toujours sur le principe de droite à gauche? Non?
Exactement.
Okay.
Et là, il n'y a pas... Il y a combien de lettres ici?
Ah, merde. Men... M-E-N... Il ne faut pas que j'oublie.
Non,
okay.
M-A-N normalement, M-A-N, mais vous ne tenez okay. pas compte de la voyelle.
Oui, c'est ça. Alors, j'irai avec un M et un N.
Excellent. Bon, donc, vous commencez par quelle lettre?
Quelle lettre? Alors, le N.
Le M.
Oh,
le
c'est...
M.
Le
vous
de... M.
Vous devez commencer par la lettre que vous prononcez en premier.
Ok, d'accord.
Men, c'est le M que vous prononcez en premier. Donc vous allez faire un M du début.
Je vais m'habituer, c'est parce que j'étais encore en train de réfléchir de droite à gauche.
Ah non, bon. non, justement. Alors vous allez à droite, vous allez faire un M, et dans le M du début, on dirait une petite tête chercheuse. C'est un tout petit rond.
Ok.
Avec un petit trait pour accrocher à la lettre qui va suivre. Et qu'est-ce que je vais lui accrocher à ce M?
Oui.
Donc c'est le M, N. Un M du début, minuscule.
Ah, ok, d'accord.
Et je vais lui accrocher quoi?
Le N.
Excellent.
Bon.
Et lequel le N? Du début, du milieu, de la fin ou isolé?
Celui qui est isolé, si je...
Non, 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 non. Okay, parce que ça s'accroche, tout s'accroche. Ça va être le N de la... De la fin du mot.
Ok. Le N isolé,
c'est
bien, ok,
c'est bon.
Et le N
de la fin du mot, c'est comme un petit ventre de nounours qui descend un peu en dessous de la ligne. Okay. C'est comme un petit ventre.
Oui.
Vous voyez? Avec un petit nombril au milieu.
Oui.
Et il va, vous voyez, ça veut dire le M et le N.
Le N et le M, ok.
Ça veut dire que c'est un petit rond, un petit trait, et ensuite c'est comme si vous dessiniez un petit ventre.
J'essayais de trouver Madame Balois la dernière fois, c'est parce que je sais qu'on peut modifier notre clavier pour écrire carrément en arabe, c'est vrai, hein?
Mais vous avez, attendez, non, vous avez aussi le clavier que je vous ai donné, là, le lien, de il est sur LibertyVox, okay. Logo, vous voyez, un clavier?
Oui. Ah, ok, je le vois, c'est bon.
Vous voyez, et vous pouvez y aller, réécrire, par exemple, vous allez faire le CH, on le marque avec un S et une petite virgule.
Ok, alors...
Vous allez voir, et les lettres s'accrocheront d'elles-mêmes.
Ah, c'est incroyable.
Sur ce clavier.
Ok, c'est bon. Alors...
Vous allez voir, vous allez faire un CH, qui est un S avec une petite virgule, parce qu'ils n'ont pas mis CH à cause de la lettre en allemand. Vous allez, vous allez voir, ça va être un CH isolé. Avec trois points.
Okay.
Et puis, quand vous allez l'accrocher au M, vous allez voir qu'automatiquement, les jambages vont se couper.
Attention, est-ce que c'est le H avec un apostrophe ou le H qui n'en a pas?
Mais il n'y a pas de H dans Shams.
Okay.
C'est le S avec la petite virgule.
Ok. Je...
Alors, vous allez voir, c'est comme un U avec trois points.
Oui,
le voyez-vous?
Ça. Oui, je le vois.
Alors, vous allez mettre cette lettre. Elle va apparaître isolée sur le tableau blanc. Vous allez lui ajouter un M, M, et vous allez voir que le jambage va se couper.
Oui, tout à fait, puis ça descend assez vers le bas. Vous allez sur le 3W LibertyVox, c'est dans la section, je pense que c'est la dernière section, oui, c'est ça exactement, LibertyVox, dans le lien rocky.com, accueil LibertyVox, c'est la page 199, vous descendez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le sixième poste, vous avez le fameux clavier où est-ce qu'on peut comprendre exactement ce que Mme Balois dit.
Vous n'aurez même pas besoin, vous pourrez écrire ce que vous voulez. Vous voyez qu'une transcription des lettres,
oui.
Vous verrez que les lettres, lorsque vous allez les mettre au début et au milieu des mots, leurs jambages vont se couper automatiquement. Les lettres ne conservent leurs jambages qu'à la fin et en position isolée.
Ok, d'accord.
Et là, vous verrez sur le fil de langue arabe, moi j'ai réalisé un gros travail, là, pour Rokik, à savoir que c'est vraiment expliqué en long, en large, en transcription, et vous pouvez faire vous-même sur ce clavier les exercices vraiment... que vous voulez, faire après des copier-coller.
C'est incroyable, je m'amuse comme un petit fou, là, à voir vraiment. Là, je comprends encore plus, parce que c'était difficile.
Ah, c'est sûr.
Ah oui, tout à fait. Là, il y a vraiment une certaine facilité là, à vraiment repérer exactement quel signe et quoi. Bon.
Parce que vous allez voir que vous-même... Alors, justement, il y a dans un premier temps, il faut repérer les lettres. Par exemple, si vous avez... Je vous prends encore un autre mot. Je vais prendre, par exemple, Zenb. Zenb. Là, vous allez entendre quoi? Zenb.
Zenb.
Zenb. Avec Zenb, j'ai fait une lettre interdentale, qui est comme un peu comme une lettre anglaise.
Ouais.
Za, zel. Qui, dans le clavier arabe, c'est un petit D avec une petite virgule. Zenb.
Oh,
ensuite,
my God.
Il y a le N.
Ok.
Et ensuite, le B à la fin. Alors là, on est sur un exemple typique de lettres qui ne s'accrochent pas à la lettre qui suit. Le zel, z, qui vient après le D, qui est comme un petit fer à cheval avec un petit point. Dès que vous allez l'accrocher au N, eh bien, vous allez voir que le zel ne s'accroche pas à la lettre qui suit. Donc, vous allez automatiquement avoir une lettre isolée.
Ok, ok.
Après, N du début.
C'est vrai.
Un N du début. Et le N, il y a un point au-dessus. C'est juste un petit... Vous allez avoir... Comme si vous aviez un I, mais à l'envers.
Ok, un I à l'envers,
et
exactement.
Et ensuite, le B, qui est comme une petite barque avec un point. un point en dessous.
Et lui va être collé, par contre, là.
Bien sûr, okay, excellent. C'est bon, parfait, okay. Parce que lui, voilà, il y a six lettres qui ne s'accrochent pas aux lettres qui suivent. Il y a le alif, qui est comme un bâton, le A long. Il y a le D, il y a le D. Il y a le zel, qui est comme un... C'est pareil que le D, mais avec un petit point dessus.
Mais
il y a
vous
le
voyez...
R roulé, qui est comme une grande virgule qui dérape. Il y a le Z, qui est comme le R avec un point dessus. Et il y a le W. Il y en a six. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Je dirais, ça c'est ma perception, Madame Allois. C'est ma perception. Le Z, j'ai l'impression que c'est un B avec un petit point.
Non. Le Z, c'est une grande virgule avec un petit point. Ah, attention.
Ok.
Le gros problème, vous avez raison.
Ok.
Il y a plusieurs lettres. Vous avez le vent qui est comme... Alors, justement, le Z, le grand Z, qui est comme un B.
Oui.
Qui est comme un B. Avec un petit point dessus.
Oui.
C'est le vent, c'est-à-dire c'est le Z emphatique, le Z gonflé.
Ok.
Vous avez tout à fait raison. Et puis vous avez le Z qui n'est pas emphatique. Par exemple, qui est tout petit, Zahir, etc., le Z. Et là, c'est comme une grande virgule avec un point.
Ok. Oui, exactement.
Dessus. Vous voyez où il est ?
Oui, je le vois.
Parce qu'il y a quatre lettres qui sont faites avec des majuscules, quatre lettres emphatiques. Le temps... Le T
c'est
majuscule.
C'est spécial.
Temps.
C'est vraiment spécial.
Temps, comme un B.
Oui.
Comme un B, un gros B. Le vent, qui est comme un B avec un point. Le dande, qui est comme un, vous voyez, qui est comme une grande lettre là avec un point dessus. Et puis vous avez également le sand, qui est comme un S, un grand S, sans rien du tout. Sand, dande, tande. Vous voyez les quatre lettres qui sont faites, rendues par des majuscules sur le clavier.
Ok. Et même, je peux, petite remarque aussi, on n'est pas obligé non plus nécessairement de se servir des lettres que l'on a au niveau du clavier en question, le fameux www.lexilogos.com.
Exactement, vous êtes bon. Pas, ceux qui veulent tout seul, c'est le, voilà, il y a un clavier qui est tout à fait là, indépendant de LibertyVox, qui est pour tout le net possible, et là, sur ce clavier, vous avez la possibilité d'écrire.
Exactement.
D'accord?
Oui, tout à fait.
L'avez-vous atteint, ce clavier?
Oui, je l'ai, je suis devant.
C'est génial.
Ah, c'est
donc,
génial,
vous tapez certains... les lettres et les lettres vont sur le tableau blanc automatique.
Exactement. Alors, par exemple, si j'écris « mère », ça transcrit systématiquement le mot « mère », mais en arabe.
C'est, alors, qu'est-ce que vous voulez écrire, par exemple, en arabe, là? Qu'est-ce que vous voulez mettre comme lettre?
J'ai marqué le mot « mère », une « mère ». M-E-R, une femme qui est mère de la mère de mon enfant. Bon, alors j'ai...
Alors,
oui.
Effectivement, si vous transcrivez le mot, excellent, si vous transcrivez le mot mère et que vous allez avoir le M,
oui,
plus le mime, le M du début,
oui.
M, hein, le M, comme un petit rond. Si vous... mère, vous allez peut-être mettre un alif, pour, ça se prononcerait mar, parce qu'il n'y a pas de...
Mar,
de,
ok.
Ou mir, non, mais c'est mar plutôt, mère, mar. Alors, vous allez mettre un alif, mettez le bâton, le début.
Oui.
Ne s'accroche pas à l'aide qui suit, vous aurez un R tout seul, comme une grande virgule.
Ok, c'est fait.
Ça va, voyez comment les lettres s'organisent et se coupent?
Exactement. J'ai donné aussi le lien via live@rocky.com aux auditeurs. Vous pouvez aller chercher. Il est déjà Janik est déçu. Un gars qui nous écoute de Toronto. Alors parfait. Le fameux clavier en question, on est déçu, Madame Ballois.
Alors. On est dessus.
Oui, dessus.
Excellent. Alors maintenant sur ce clavier, je voudrais que vous écriviez Karim. Karim. Alors, attention, il y a une voyelle longue, donc je vais la marquer.
Ok.
Qu'est-ce que je vais faire pour commencer? Le K.
Tout à fait.
Alors, le K, c'est comme un kangourou. Vous voyez cette belle lettre?
Oui, tout à fait.
Je lui accroche le R roulé, R, comme une virgule.
Oh, tout à fait, ça aussi, virgule. Ah, mais attendez, oh, attendez.
Oui.
Ça change systématique, c'est spécial. Alors, le K et le R deviennent autre chose automatiquement. Est-ce que c'est
mais
normal?
Oui, parce que ces lettres isolées, quand
oui,
ils vont être dans un mot... vont, au début et au milieu, couper leurs jambes. Vous voyez comment elles se coupent?
Oui.
Ensuite, c'est pas Karim, c'est Karim. Je vais ajouter, pour faire le I long, un Y, qui est un Ya.
Ok. Ya.
Et ensuite, voilà, vous voyez,
là,
comme c'est avec deux petits points.
Tout à fait. Et ce n'est pas collé ni au K ni au R.
Exactement,
c'est séparé.
Puisque
bon,
le R ne s'accroche pas à la lettre qui suit.
Oui, exact. Parce que c'est une...
Donc, on va commencer. Vous allez avoir un yak qui ressemble à un petit canard.
Oui.
Mais vous allez voir que accrochez-lui le M.
M.
Accrochez-lui le M.
Ben oui, c'est vrai, ça se... Ah, ok, ah, il saute ensemble.
C'est pas génial?
Oui, très. Franchement, c'est extraordinaire. C'est même magique.
Voilà, j'ai la même impression.
Oui.
C'est-à-dire, vous avez ce clavier, et le clavier, les claviers arabes marchent comme ça. C'est-à-dire que vous pouvez dire à tous vos auditeurs qui vous écoutent que le fait d'apprendre l'écriture arabe, ça permet d'avoir accès à un clavier qui permet d'écrire aussi bien la langue arabe que le persan. Et en même temps, ça vous donne une compétence. C'est-à-dire que, vous voyez, on peut écrire en arabe sans même, à la limite, pousser très loin les études arabes. Mais au moins, vous avez le comment écrire en arabe. C'est pas beau?
C'est très beau. Même, je vais installer le lien dans les Kick Ask Link. Qui va se retrouver au bas de la page du www.rockick.com et j'en ferai part aux auditeurs fréquemment s'ils désirent justement en savoir plus d'aller cliquer sur ce lien-là pour justement se servir de ce clavier multilingue, pas juste arabe mais multilingue.
Exactement, parce multilingue, tout à fait juste. Enfin, vous le bloquez sur l'arabe, mais en
oui.
même temps, je prends un exemple, je vais prendre un mot qui existe en arabe et qui sont les... Vous savez que le mot montagne en arabe, ça se dit Jebel. Vous savez, le djebel, dans le djebel, on a parlé, bon. Et le pluriel, c'est
oui.
Jibel.
Jibel.
Comment je vais écrire Jibel? Je vais faire un J du début.
Alors, J.
Alors, évidemment, au début, vous aurez une lettre avec un... Vous avez une lettre avec une grande lettre, là, avec un point.
Oui, qui est joli, à l'intérieur, hein. C'est ça?
Oui, très bien.
Tout à
comme
fait.
Comme Jimmy, avec un point. Ensuite, vous allez lui accrocher un B.
Un B, d'accord. Oh! Hein.
Vous voyez comment il se coupe?
Mais oui! C'est...
Et ensuite, vous allez allonger, parce que j'ai dit Jibel, j'ajoute Alif pour faire Ba, et le Alif s'accrochant pas, et le L, Jibel.
C'est comme une longue suite, dans le fond.
Ah, exactement, et là, le L, c'est comme la canne de loulou à l'envers. Mais le Alif s'accroche pas à l'aile qui suit. Alors avec ce clavier, vous réalisez plus comment s'organise l'écriture arabe, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Madame Malouin, ce qui serait intéressant aussi, parce que je désire en faire l'achat prochainement, c'est-à-dire un dictionnaire, mais uniquement en arabe ou bilingue. Qu'est-ce qui est préférable, justement, pour que
alors,
je puisse m'en trouver?
Alors, j'ai aussi donné sur LibertyVox, je vous redonne à vous, il y a un petit dictionnaire qui s'appelle un dictionnaire de poche pour les racines, c'est-à-dire le Munjid de poche, et une grammaire
ah, oui,
qui
oui.
est très bien faite, une petite grammaire. Le tout, c'est pas cher. Hein. Vous avez le livre de j'ai les références sur LibertyVox, qui est le Munjid arabe-français, qui permet à vos éditeurs d'avoir du vocabulaire, puisque ça s'organise les mots arabes par racine.
Okay.
C'est comme une petite poupée russe. Vous avez un noyau de trois lettres,
oui.
et autour, il y a plein, vous voyez, c'est-à-dire, par exemple, on met des petits vêtements autour, on ajoute... Des lettres, et ça donne une nuance de sens. Par exemple, vous avez la racine KTB, Kataba.
Kataba, ok.
Le K, le T et le B.
Oui.
Eh bien, avec cette racine-là, vous aurez le mot Mekteb, qui veut dire le lieu où on écrit, la bibliothèque, ou Maktaba, enfin, Maktaba, Mekteb, le bureau, Maktaba, la bibliothèque.
Ok, quand j'entends le mot Mekteb,
Mekteb, oui.
Oh, attendez, là, je viens de me tromper à ce moment-là. Là. Vous me dites Mekteb et non pas
Mekteb. Alors, vous, sur votre clavier, vous faites oui. un M du début.
Oui, c'est ça.
Un K du milieu.
K du milieu, exactement. Faut
skipper. Un T du milieu.
T, voilà.
Et un B de la fin.
OK.
C'est pas joli?
Oui. Je vais
et
recommander
dans le dictionnaire.
Oui.
Dans le dictionnaire, vous retrouverez le K, le T et le B qui est la racine. Il faudra chercher la racine. C'est-à-dire que c'est la langue, toute langue sémitique part d'une racine, et c'est autour de la racine que vous pouvez avoir plein de mots. Donc, c'est très intéressant. Vous découvrirez plein de choses. Même là, pour le clavier, vous avez... Alors, il y a un dictionnaire et il y a une grammaire très bien faite. Faite d'ailleurs pas... On peut l'avoir en ligne. Elle coûte 5... Je sais pas, doit coûter 6 euros ou 7 euros. 6 euros. Et c'est
hey,
très
c'est
bien fait.
C'est
fait par quelqu'un qui est Michel Nerneuf. Et un Irakien aussi. Et très bien fait, très, très systématisé, très clair.
Je ne sais pas si c'est sérieux, on nous pose la question, Madame Balois, le mot Fouzia. Qu'est-ce que ça veut dire?
Fouzia?
Oui.
C'est un prénom, Fouzia. Mais vous verrez qu'on fera plein de comment dirais-je, plein de mots. Par exemple, je prends encore un exemple de mots.
Oui.
Si vous allez essayer de... Ah, attention, il y a une particularité d'écriture.
Oui.
Quand vous avez un L plus un alif, c'est jamais une éprouvette. Vous savez comme en chimie.
Oui.
C'est comme le L plus le alif, le L plus le A, ça vous donne comme une branche d'arbre. Et ça veut dire là, non, là. Vous avez fait, ça vous fait comme un V.
Oui. L plus un L et plus un alif, c'est ça?
Voilà.
OK.
Ça vous donne quoi comme type d'écriture?
Mais c'est... écoutez, c'est sûr que je débute, là, mais c'est assez étrange. Ça donne comme une espèce de croisé.
Excellent. C'est ce qu'on appelle l'écriture particulière de la malif. Au lieu, vous voyez, d'avoir une éprouvette un peu, vous savez, comme en chimie, un tube.
Oui.
Un U, eh bien, ça fait un V.
Oui, tout à fait.
C'est une particularité d'écriture.
C'est assez étrange, en tout cas.
Voilà.
Bon. Alors, la semaine prochaine, on discute ensemble et on va aborder quoi exactement, Mme Ballois?
Alors, la semaine prochaine, si vous le permettez, on continue parce que je voudrais qu'on puisse survoler un peu comme ça le Coran, sous la mode, un peu dans le genre que j'ai fait, un peu 20 minutes.
Tout à fait.
Ou 20 minutes. Et puis, je vous dis, on continuera l'alphabet. Je pense que l'écriture, je ne vais pas aller trop vite parce qu'il faut que les gens prennent l'habitude d'écrire en arabe et après, après, ça devient comme une langue normale, hein, avec la grammaire, le vocabulaire,
voilà.
On le fera. Mais il ne faut pas passer trop vite sur l'écriture parce que c'est quand même un autre système.
Effectivement. On me demande ici de la part de Janik, Mme Ballois. Juste un instant. El Hachi... Non. Je suis sûr que je vais le prononcer très, très mal. Là. Excusez mon accent, Mme Ballois. C'est Janik qui nous envoie ça. Il veut que vous traduisiez dans le fond. El Hachuni Mahak. Est-ce que vous m'avez entendu?
J'ai pas parce que atchan ça veut dire
atchuni.
ça veut dire être assoiffé, mais c'est pas ce qu'il veut dire.
En tout cas, je répète une dernière fois, el hachuni mahak.
El hachuni?
Oui, hachuni.
Alors, demandez-lui quelle lettre il a utilisée.
Alors, je vais vous épeler Hachuni, comment il l'a écrit. H-A-T-C-H-O-U-N-I.
Oui.
Et Mahak, eh bien, c'est M...
Mahak, ça veut dire avec toi. Mahak, ça veut dire avec toi. En ta compagnie, Mahaki.
OK, alors M-A-A-K, ouais.
Ouais, Mahaki, ça va. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par Al-Hachuni, parce que ça dépend... Qu'est-ce qu'il veut dire?
Le H aspiré qui me dit, c'est d'Alger. Demandez-lui ce que ça veut dire.
Ah oui, non, attendez. Là, on est bien d'accord sur ce qu'on fait sur Rocky.com.
Oui.
C'est qu'on ne fait pas les dialectes. On fait l'arabe coranique avec quelques... En disant, dans certains cas... Parce que ça, le dialecte algérien, marocain, ça, je ne vais pas du tout me lancer là-dedans.
Non.
Moi, je fais l'arabe du Coran. Vous voyez, c'est-à-dire comment écrire... Et comment parler, mais dans un arabe très, très classique, très, très coranique.
C'est bon, on a tous compris. Alors, Madame Ballois, on se reparle la semaine prochaine, lundi prochain, sans faute.
Voilà, pas de problème.
Mais je vous remercie beaucoup, c'est toujours très intéressant.
Je vous en prie.
Et
au revoir.
Au revoir, exactement, bye bye. Alors, c'était Madame Ballois que vous venez tout juste d'entendre. On bat des derrière, il est 12h31. Moi, je vous laisse là-dessus. On parle encore de ce sujet qui est quand même à prendre avec des gants blancs. Êtes-vous devenu intolérant? Je pense pas qu'on est devenu intolérant. Ils font en sorte qu'on devienne intolérant peut-être aussi. Est-ce que ça pourrait être une possibilité? On en saura davantage demain. Merci d'avoir été là. Wake up, le show. Ismaël Trépanier, le Pulisseur, Christian Dallaire, le Chialu et Miss Diamond. On va botter des derrière le plus longtemps possible. Et c'est grâce à vous qu'on est encore capable de le faire en 2007. Live@rockkick.com. Merci d'avoir été là. Hein, Janik, hein? Elle n'a pas répondu à ta question. T'as compris le message? Qu'est-ce que tu veux? Je m'en doutais quand j'ai vu la traduction de ce que ça donnait. Je m'aurais étonné qu'elle réponde à cette question-là. Alors, on bat des derrière. Je vais faire un dernier tour, là, rapidement, là. Et Elman Junin, qu'est-ce que ça veut dire, l'innocent de Dieu? J'ai soif en ta compagnie. Bon, bref, merci d'avoir été là. On bat des derrière. La rediffusion est disponible dès 16h. Vous m'avez compris, dès 16h, la rediffusion du show Wake Up et Hard Sport est disponible. Si vous avez raté quelque chose, rediffusion, vous cliquez sur le bouton. Et installez-vous donc Winamp aussi. C'est le lecteur, justement, dont on sert ici sur le www.rockick.com, votre station numéro 1. Merci à toute la planète rockick.com d'avoir été là en aussi grand nombre et de passer le message rockick.com. Allez écouter ça, quelqu'un, puis venez m'en reparler. Merci.
Le matin, au www.rockick.com, on start en force.
De 8h à midi,
Wake Up,
avec Ismaël Trépanier
et ses collaborateurs.
Voilà l'intérêt pour ces filles-là, dans le fond, c'est des plots à cash.
L'exhibitionnisme, c'est bien certain que ces gens-là veulent se faire voir.
Ils veulent se montrer
Ils vont trouver, tu sais, je veux dire, Virginie, là.
Mais j'ai l'impression...
Quelqu'un qui la connaissait avant, il y en a plus qui savaient qu'elle existait.
Non. Je suis la première à dire que la jeunesse d'aujourd'hui est initiée trop à la sexualité et avec ses photos, je ne demande pas aux jeunes de faire l'amour à 15 ans. J'ai juste dévoilé le côté adulte de moi pour un magazine pour gars et qu'ils en fassent ce qu'ils veulent quand ils l'auront en main. Quant à Virginie Francoeur, tant mieux si elle a un beau corps et qu'elle s'affirme là-dedans, ça ne fait pas d'elle une mauvaise fille ou une mauvaise personne pour la société.
C'est quoi qu'il y a d'allumeur là-dedans, hein?
On dit pas que c'est juste mal, on dit juste que c'est pas nécessairement la meilleure façon de présenter le côté sexy non plus.
C'est
là,
ça.
Se dévoiler de même à poil, là. Il y a d'autres façons de faire les choses pour être attirante aussi.
Mais là, c'est quoi que ça me donne comme impression? Ça a l'air d'une slot. Ça a l'air d'une slot, man. C'est ça le problème.
À partir d'une heure, Hard Sports, en direct d'ailleurs, mesdames et messieurs, Christian Dallaire revient, collaborateur invité, le seul show de sport controversé à Québec.
Le paresseux à Cavalier va jouer une grosse game de merde. Aucun sens. On peut rien faire pour s'améliorer. On est obligé de payer son salaire. Dans le fond, Alexis Kovalev est de ce que José Théodore est capable de faire au Colorado en ce moment.
Rien.
Pas constant.
Pas d'éthique.
Rien à faire. Condamné à payer un salaire faramineux à un joueur bourré de talent qui livre pas la marchandise.
Rien à voir avec les autres. You're gonna feel my pain. Look out. Rock on. Kiss my ass. Radio Kansasus.
Oh, dis que c'est le fun, c'est des foules, hein? Ouais!
Rockick.com.
May I have the envelope, please? And the winner is...
Rockick.com.
This item contains measurement materials and is intended for adults only.